Luis Campos n'est pas content du mercato du PSG. Alors, il a parlé de Neymar, il a parlé de Galtier, il a parlé de plein d'autres sujets. Alors, restez avec nous, on va Bienvenue dans le Paris Central Show, on est avec Dryas, on est avec Simbad. Salut les amis.
Salut tout le monde.
Alors, cette interview, elle est sortie un peu de nulle part. Donc, avant d'évoquer un peu les déclats, vous avez pensé quoi de l'attitude et des interviews de Luis Campos? Parce qu'on était habitué à celle de Leonardo depuis quelques années. Comment vous avez trouvé Luis Campos chez RMC? Dryas?
Ben, déjà, pour moi, il faut la mettre en relation avec la rumeur Chelsea. C'est mine de rien, c'est tout bête, mais depuis trois jours, ça parle beaucoup de Campos. Il y a d'abord eu la rumeur, puis comme tu dis, cette interview qui arrive, on est au courant. Alors je sais pas, peut-être que la news est sortie hier, mais pas plus tôt qu'hier soir. Après, comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé au niveau de la forme. Je l'ai trouvé bon. Il était détendu. Après, sur le fond, on en reparlera, mais il était détendu. Il a réussi à diffuser une image cool, séduisante, en parlant à la fois de jeu, sans commettre d'impair par rapport à lui-même. Et au niveau de la forme, je l'ai trouvé bon, il était souriant, il est arrivé alors que Roten, au niveau de la forme, Roten et je ne sais plus qui est l'autre, il lui coupait mine de rien pas mal la parole, c'est avec des petites interventions. Il a réussi à parfaitement garder son calme, réussi à distiller ses messages jusqu'au bout. Et au niveau formel, il a été bon, quoi.
Et toi, Simon?
Ouais, bah, c'est d'accord avec ce qu'a dit Dryas. J'ai trouvé un très bon Luis Campos dans l'exercice. On l'avait jamais vu face caméra, il me semble, depuis qu'il est arrivé. Il avait fait une interview posée chez Le Parisien, si je dis pas de bêtises. Mais oralement, on l'avait jamais entendu. Corrigez-moi si je me trompe.
Non, non,
c'est la première fois. Et du coup, voilà, un exercice qui était assez attendu, mine de rien, au vu de ce qui s'est passé récemment. On sait que le PSG n'est pas dans une phase extra-sportive dans le monde médiatique assez facile. On sait qu'il y a eu pas mal de choses un peu négatives autour du club. J'ai trouvé que ça en est très bien tiré, très posé, très calme. Comme tu l'as dit, il n'a pas essayé de surjouer ou au contraire de se faire bouffer par ses deux interlocuteurs. Donc non, sur la forme, on va parler du fond après, mais sur la forme, j'ai trouvé un très bon Luis Campos dans l'exercice.
Ok, bah, écoutez, on va essayer d'aborder ce qu'il a dit étape par étape. On va d'abord foncer direct sur ce qui a fait le plus de bruit, où il a manifesté son mécontentement au sujet du mercato qu'on a effectué. Alors, je vais le citer mot pour mot, je vais faire confiance à mes collègues de chez PSG Community. Est-ce que je suis satisfait du mercato? Non, on n'a pas seulement parlé avec Milan Skriniar, on a parlé avec d'autres joueurs, mais au final, on n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait. Dryas, t'en penses quoi?
Alors, en soi, si tu veux, mais le truc, c'est que c'est très difficile de détacher un élément par rapport au reste. Il y a à la fois un discours qui est très séduisant, et je pense, mais tu vas en parler après, le chapitre économie, VS sportif, etc., où ça brosse vraiment le supporter dans le sens du poil, etc. Mais c'est oublier la situation dans laquelle était Paris. Et après, si tu veux, c'est peut-être un des derniers éléments sur lequel il le nomme en fait dans le cadre d'un calendrier de mercato en déplorant que c'est à chaque fois pareil parce que la première semaine ils font effectivement une signature et ensuite de ça pendant 5-6 semaines il se passe rien et à l'arrivée tu te retrouves avec une pièce du puzzle qui manque. Et en soi, si tu veux, si tu n'écoutes que ça, bien sûr il a raison. Maintenant, il y a en creux quelque chose qui est dit, qui est sans doute mis en exergue par ailleurs dans l'interview. Donc, si tu veux le prendre bout par bout, je garderai le reste de l'analyse pour la suite.
Et toi, Simbad?
Impossible de lui donner tort. Impossible de lui donner tort. Il y avait des cibles et des... Je dis cibles, pas en tant que joueur, mais en tant que manque, qui étaient criants et visibles. Alors, sur le milieu de terrain, on a répondu à certaines questions. Sur la défense, c'est une catastrophe. On l'a répété tellement de fois ici sur Paris Central. D'un point de vue de Quand je parlais de l'aigri originel, le voilà, Pasto. J'espère que tu vas bien, frérot.
Ouais, je serai encore aigri, t'inquiète pas.
C'est impossible de donner tort à Luis Campos là-dessus. Franchement, quand tu vois le mercato de la défense, c'est impossible de lui donner tort. Et pour le coup, il a eu cette honnêteté-là. Certains la décriront, d'autres l'applaudiront. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent qu'elle est louable. Tu sais que tu avais un manque en défense. Il a vraiment tiré à. Enfin, c'est une guerre un peu interposée avec Antero Henrique, mais on en reparlera sûrement plus tard. Mais sinon, oui, le mercato pour moi, dans l'ensemble, d'un point de vue des arrivées, je n'en suis pas satisfait. Quand il te parle des arrivées tardives de Carlos Soler et Fabián Ruiz, ce n'est pas un hasard non plus. Quand il te parle du manquement d'un numéro 9 ou d'un attaquant, ce n'est pas un hasard non plus. Quand il te parle du manque d'un défenseur, ce n'est pas un hasard. Donc pour moi, en tout cas sur cet aspect précis-là, c'est impossible de donner tort à Luis Campos.
Salut Basto, tu arrives encore de live. Alors, le
Yes.
sujet actuel, c'est qu'est-ce que tu as pensé de ce que Luis Campos il a dit sur le mercato du PSG et comme quoi il serait pas satisfait?
Ben, moi, je ne le suis pas non plus, nous, on ne l'est pas. Donc, sur le constat, on va tous le rejoindre, je pense. De toute façon, on a tous vu les manques qu'il y avait, que ce soit au niveau des décès, mais comme le signe l'a dit, notamment aussi au niveau d'un attaquant, peut-être, ou les arrivées tardives. Maintenant, on en reparlera plus tard, plus en détail, mais j'ai vraiment l'impression que Campos, il est arrivé, et les rumeurs de Chelsea n'étaient peut-être pas vaines, et c'est peut-être là aussi pour mettre un coup de pression, c'est que tout ce que dit Campos, c'est dirigé contre Henrique. Tout. Le mercato qui arrive tard, le fait qu'on n'ait pas de décès parce que finalement on n'a pas pu le faire assez tôt et que c'était plus cher à la fin du mercato pour le faire, tout est dirigé contre Henrique. En fait, si tu écoutes toute son
Mais on en
interview,
parlera après du reste
ouais,
d'assaut.
mais juste, bah oui, mais là du coup, ouais, mais tu peux pas le détacher, tu peux pas le
Mais
détacher parce que
je
pour moi, en fait, son interview globale, il n'y a pas vraiment de fond. Moi, ça fait 2 mois que j'attendais qu'il nous explique un projet de jeu sur plusieurs années, il l'a pas vraiment fait. Ce qu'il fait, c'est dire le mercato n'est pas bon et on va parler plus tard, pourquoi il l'a fait, mais je pense qu'on a tous plus ou moins vu la même chose, si on lit entre les lignes.
Y a F qui nous demande est-ce qu'il veut partir? Alors,
Non,
dans
pas du tout.
l'interview, normalement, clairement, il a dit qu'il est en contrat de 3 ans. Après, vous connaissez le football. Après demain, il peut être parti. Mais là, normalement, de ce qu'il a dit, il est censé être là pour rester. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense qu'on va enchaîner là-dessus. On a remarqué, peut-être, c'est notre interprétation qu'il y avait pas mal de piques envers Antero Henrique. Il a dit le filtre économique ne peut pas conditionner le filtre sportif. À un moment, la priorité, c'est davantage la question économique que le sportif. Donc là, il nous fait clairement savoir qu'il y a un moment donné, il voulait faire, il avait des projets pour la saison et que le volet sportif slash Antero Henrique a peut-être pris le dessus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Dryas?
Bah, c'est simple, on va remplacer les mots par des noms. En fait, la question, c'est le filtre économique, et donc c'est le travail d'Enrique, et doit être au service du filtre sportif, donc de moi-même. Mais malheureusement, la priorité a été donnée au filtre économique et donc à Antero Henrique, bah, le filtre sportif s'en retrouve défaillant. Donc moi-même, je ne peux pas assurer ma mission à cause de la défaillance de l'autre. Mais faut pas, enfin, le truc, c'est qu'il l'amène, cette partie-là, elle est un peu plus longue, je vous invite à aller la lire en détail. Elle est extrêmement bien amenée, c'est extrêmement bien présenté, c'est extrêmement bien ficelé. En plus, ça caresse le supporter dans le sens du poil. Tu dis l'économie, bien sûr que l'économie est importante, grosso merdo qui dit, bien sûr que l'économie est importante, mais il faut qu'elle soit subordonnée au sportif. Comment un supporter peut donner tort à ça? Mais il faut pas oublier la situation dans laquelle on était. Et d'ailleurs, lui-même le rappelle dans l'interview. Il dit qu'on avait 54 joueurs sous contrat et qu'on n'avait pas pour autant de deuxième équipe. Et que ça, c'était une situation à laquelle il fallait remédier. Et avec les nouvelles règles du FPF, notamment basées sur la masse salariale, etc., etc., on s'est très vite retrouvé dans une situation où, de facto, on était bloqué. Et ça, il oublie bien entendu de le préciser.
Simone.
Moi, je trouve qu'il y a le mot qui est passé tout à l'heure dans les commentaires, c'est déresponsabilisation. C'est-à-dire que c'est un peu la patate chaude où, comme tu l'as dit un peu Draya, je vais essayer de vulgariser, c'est pas moi, c'est la faute de l'autre. Et en fait, c'est un peu dommage parce que quand il te parle, quand il te dit que le volet économique a pris le dessus sur le volet sportif, je ne pense pas que tu étais à 10 millions près pour un Milan Skriniar en début juin. Je pense que quand tu vas voir l'Inter avec une offre de 45-50 millions, alors que eux t'en demandent 60, et qu'au final tu te retrouves à raquer pour 60 plus 10, 70 fin août, j'ai envie de te dire, le volet sportif, si tu voulais vraiment le mettre en œuvre, tu n'avais qu'à donner les 60 début juin et puis on passe à autre chose. Alors, c'est un exemple de cas qui montre que oui, il n'a pas ce que Campos a aussi failli à sa tâche sur certains aspects, ça c'est indéniable. Il dit que quand il dit le on n'a pas réussi à avoir qui on voulait, j'aimerais bien savoir c'est qui le on, parce que dans les négociations, il me semble bien que c'est lui qui mandate les intermédiaires pour aller négocier, c'est lui qui va négocier parfois directement avec les joueurs et les clubs. Donc quand il dit on n'a pas réussi à avoir qui on voulait, c'est une manière de ne pas se nommer lui-même, alors qu'on sait tous que celui qui était occupé aux affaires des arrivées était Luis Campos, et celui qui était mandaté aux affaires des départs était Antero. Alors Antero, on sait que 54 joueurs ce contrat, dont 23 départs, certains diront oui à beaucoup près, mais ça reste quand même une prouesse. Pour moi, celui qui a le plus, je vais dire, failli à sa tâche, c'est-à-dire que quand on te dresse un cahier des charges et que d'un côté, tu as tant de départs à faire et tant d'arrivées, quand moi je regarde en début septembre et que je vois les petites coches vertes, bah, je me dis que Antero a réussi à cocher plus de cases que Luis Campos en a réussi. Et lui se cache derrière l'excuse de nous dire « oui, mais c'est parce que l'économie, c'était compliqué, etc. » Et au final, l'économie, elle est compliquée pour tout le monde. Il a quand même réussi à faire partir des joueurs Antero qui étaient complètement impossible d'imaginer, ne serait-ce que même qu'en prêt, quand on pense à Ander Herrera qui part en prêt avec option d'achat du côté de l'Athletic Club, quand tu penses à des mecs comme Icardi qui part en prêt avec option d'achat du côté de Galatasaray, il me semble que Kurzawa c'est un prêt sec, si je ne dis pas de bêtises, quand tu penses à des mecs comme Paredes avec leur gros salaire qui arrivent à partir avec des prêts, avec obligation d'achat, il me semble, sous certaines conditions, tu dis que lui a réussi plus ou moins sa tâche. Là où pour moi Campos a failli, et je trouve qu'il se trouve quand même pas mal d'excuses.
Alors Basto, pour te donner la parole, je vais juste compléter avec ce qu'il a dit et qui ça va rebondir un peu sur Simbad, ce que Simbad a dit, pardon. On n'a pas vendu beaucoup de joueurs, on a fait beaucoup de prêts, mais l'année prochaine, ces joueurs vont revenir. Alors, c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas un bon mercato.
Alors juste avant, il dit aussi, sans jamais nommer Enrique, mais il le nomme tout le long de l'interview, mais sans jamais dire son nom, il dit « On avait décidé d'un nouveau modèle, des gens s'occupent de l'économie et moi, le sportif. » Et ça doit marcher main dans la main et l'économie a été bon. Alors après, ce qu'on a entendu Sinbad sur Enrique, c'est qu'il négociait les arrivées. C'était Campos qui choisissait les joueurs, mais Enrique était dans les négociations, notamment de Skriniar, je crois, puisque des fois, Campos a repris même la main au dernier moment sur le volet solaire, puisqu'Enrique chipotait un peu, etc., etc. Donc, c'était pas tout à fait clair cet organigramme de qui est mandaté, est-ce que c'est plus Campos, est-ce que c'est plus Enrique. Mais même dans ce cas-là, comme tu le dis, si c'est pour 10 millions Skriniar, Campos, on ne va pas me faire croire qu'il ne priorise pas les achats. Si tu mets 30 millions sur Ekitike, il est priorisé avant Skriniar, alors que Skriniar était plus prioritaire qu'Ekitike. Et là, on ne va pas me faire croire que Campos est au courant de rien et que c'est que Enrique qui gère ça. Donc, comme le dit Sinbad, il se déresponsabilise des échecs, il met tout sur le dos des autres pour dire nous, si on m'avait suivi ce que j'avais fait, on aurait eu une équipe plus cohérente, etc., etc. Et maintenant, je ne suis pas satisfait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui travaille main dans la main avec moi, dans ma main. Hein, c'est pas main dans la main, c'est il n'y a pas tout le monde qui travaille avec moi. Enfin, c'est comme ça que je le ressens.
Après, j'insiste juste sur un truc, c'est qu'au niveau de la forme, c'est très, très intelligent. Et mettre en opposition l'économique et le sportif, et bien sûr, la partie où il s'associe, lui, au sportif, ça ne peut que aller dans le sens de ce que les supporters ont envie d'entendre.
Malgré tout, il y a quelques contradictions dans son discours.
Oui.
Et ça reste énormément. On va revenir après, il y en a énormément. Mais quand tu regardes sur les forums et tout, Campos se fait pas mal déglinguer sur son intervention. Donc, ce n'est pas forcément passé.
Ça dépend lesquels.
Il y a plusieurs volets encore qu'on doit évoquer. Il a notamment parlé de discipline et ça. De Neymar aussi, parce qu'il est revenu sur Neymar et il a dit entre guillemets que tout ce qu'il avait entendu sur lui avant d'arriver au club, c'était plutôt faux, et qui pour lui, il voit un joueur très professionnel et qui satisfait aux demandes que Campos il a justement. Il a dit que Neymar n'a jamais été sur le départ et que c'est complètement faux. Alors, est-ce qu'ici, vous voyez juste... entre guillemets, de la poudre dans les yeux des gens, entre guillemets, pour passer à autre chose. Ou est-ce que vous pensez que Campos, il a jamais vraiment voulu se débarrasser de Neymar et qu'il savait ce qu'il allait faire cette saison?
Je veux bien commencer, si c'est possible, moi.
Bon, vas-y. Bon,
tu veux y aller, Marias?
L'escroc.
Ah, parce que ça.
L'escroc,
ça,
j'étais prêt, j'allais faire ma réponse et tout, va. Et hop, il m'exite, quoi. Ah non, c'est déloyal.
Ça finit ce que j'ai entendu tout à l'heure sur les contradictions, c'est-à-dire que toute l'interview, il te dit que par le passé, on a fait des erreurs, c'est-à-dire de superposer des joueurs à un même poste et dans une même zone, et il dit que Neymar et Mbappé, en gros, ont la même zone. Et deuxièmement, il dit que Messi, oui, lui, il veut le garder pour ses 3 ans où il est là, donc le prolonger de 2 ans, mais il parle de superposition des joueurs qui sont des erreurs du passé, et en même temps, il t'explique que finalement, Neymar, on n'a jamais voulu le faire partir, que Messi, on va le prolonger, et qu'on voulait même mettre un 4e attaquant. C'est pas très clair.
J'avoue. Bref, t'étais prêt à envoyer des missiles, vas-y.
Bah non, mais le truc, en fait...
Des missiles solaires.
qu'il ait voulu ou vendre Neymar, la seule chose qui est sûre, c'est qu'il le dira jamais. Et après, il est dans sa communication qui est grosso modo le fil rouge de l'interview, qui est qu'il n'y a aucun problème au niveau du sportif. La relation avec le coach se passe bien, tout le monde respecte la discipline, tous les joueurs sont impliqués, même ceux où on m'a dit bah, Neymar, machin, le mec il découvre que Neymar a la Coupe du Monde, enfin, il n'est pas naïf, tu vois. Enfin, et en gros, tout le sportif marche nickel. Il y a juste eu un bug, c'est celui qui s'occupe de l'économique. Et il est juste dans cette ligne-là, en fait, si tu veux. Quoi. Mais après, je ne sais pas si je vais me permettre de passer à autre chose, parce que je ne sais pas si tu vas pointer dessus. Pour moi, le moment en fait, où il se révèle et où il révèle son jeu, c'est quand il parle de Keylor Navas. L'accent qu'il met sur Keylor Navas, c'est le seul échec, en fait, en vente de Henrique. En sachant qu'Henrique devait vendre je ne sais pas combien de joueurs, etc. Et tu t'en as encore à te demander comment il a fait pour s'en sortir. Mais Keylor Navas, c'est son seul échec. Et là, il va quand même trouver le moyen de te placer Keylor Navas, ça fait un petit peu rageux. Et après, bon, pour recentrer sur Neymar, bah Neymar, oui, en effet, il est exceptionnel. C'est peut-être le joueur offensif le plus décisif depuis le début de la saison. Il a su simplifier son jeu. Il a encore un peu toujours cette nervosité où des fois, on arrive à le titiller, il sort un peu de son match. Mais d'une manière générale, le Neymar qui fait 25 dribbles pour aller s'empaler dans 4 joueurs, on le voit quasi plus. Il est très satisfaisant. Et bien sûr que dans ce cadre-là, il était évident qu'Henrique allait, jamais il aurait dit le contraire, et voire il allait s'attribuer un petit peu une partie du truc en disant bien sûr, il arrive à l'heure, mais de toute façon, on n'avait même pas besoin de faire les règles. Bon, les règles, on les a faites, mais on n'avait même pas besoin de les faire tellement ils sont parfaits, mes petits bébés.
Voilà. Et juste pour ajouter sur Navas, il va encore plus loin parce qu'il a dit oh, je ne sais pas si c'était un bon ou un mauvais choix de ne garder qu'un gardien, mais c'était le choix du coach. Donc mon coach, il est parfait, j'ai choisi le coach, il voulait faire ça. Voilà. Mais le méchant Henrique n'a pas réussi à faire partir.
Et il pointe bien le seul truc qu'Henrique n'a pas réussi à faire.
Il dit aussi qu'il a fait que des prêts et qu'ils reviendront tous. Donc
oui, ça pas aussi, bon. aussi.
Et Simba, toi, t'en penses quoi de tout ça?
Non, mais là, on voit clairement que c'est un discours 100% politique. Là, clairement, tu sais que tu es dans une espèce de shitstorm là, depuis plusieurs semaines, que ce soit avec le cas du penalty gate, que ce soit le cas avec les féminines, le cas avec Aminata Diallo, même si elle n'est plus sous contrat avec le PSG. Tu sais que tu es dans un espèce de tempête médiatique un peu compliquée, et venir en prime time chez Roten mettre de l'huile sur le feu en disant oui, c'est vrai que Neymar, il était vraiment mauvais, ou oui, c'est vrai que machin, etc. Ça n'aurait vraiment, mais vraiment pas aidé. Ça l'aurait desservi lui, et ça aurait complètement desservi le club. Et si ça dessert le club, bah, ça dessert aussi ses intérêts. Donc de ce point de vue-là, je m'attendais à rien de bien impactant, si ce n'est la contradiction qu'il a eue en disant la superposition des joueurs. Et il te dit finalement, non, on n'a jamais voulu le vendre, alors qu'on sait clairement, ça a été un peu comme Kimpembe. Après, je ne sais pas si c'était une réelle envie de le vendre ou un gros coup de pression. Là, pour le coup, le flou persiste et on peut penser que c'était un gros coup de pression. Mais ce qui est certain, je pense, c'est que le discours de « fais gaffe, on va te vendre », je pense qu'il était réel. Pendant l'été, ce discours-là était bien réel. Est-ce que c'était un moyen de pression ou une réelle envie de le vendre? Ça, on ne le saura jamais. Mais on sait que ce discours a existé. Maintenant, le problème avec Luis Campos, que j'ai beaucoup défendu, je trouve que j'ai beaucoup défendu par rapport au renouveau qu'il a porté, par rapport à cette nouvelle ère qu'il insufflait, c'est que j'ai trouvé un peu gamin, en fait. J'ai trouvé un peu gamin, un peu enfant, un peu... non, mais tu sais, c'est comme quand tu rates un coloriage, que tu débordes, tu dis « oui, mais c'est lui, il m'a poussé mon bras quand j'ai colorié », tu vois. Et au final, tu te dis « bon, bah... c'est bon, quoi. On peut passer à autre chose, on peut avancer ensemble. » Et le pire dans tout ça, c'est qu'au final, encore une fois, quand tu vois le cahier des charges, eh ben, en terreau, oui, tu peux lui reprocher d'avoir fait beaucoup de prêts, mais la situation était tellement, tellement dure, tellement dur et il a réussi à te faire des miracles et venir le fustiger wow. alors qu'au final.
On a un retour, il y a un micro qu'on entend, je ne sais pas de chez qui ça vient.
Attends, déjà, je vais couper les miens, déjà.
C'est...
Allô toi,
tu... Non, ouais, moi, ça va.
Ça vient de chez toi, Simbad. Pardon, excuse-moi, tu as la parole, mais je pense que les auditeurs, en gros, tu parles et on t'entend un petit peu après. Vas-y, parle. C'est peut-être... Il n'y a peut-être que moi qui entends ça. Hein.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Moi, je n'ai pas de problème. Hein.
Là, c'est top. C'est top. Excuse-moi de t'avoir interrompu, du coup. Pardon.
Non, pas de souci, pas de souci. Pas comme ça, au moins, nos auditeurs ont un bon contenu audiovisuel. Mais tout ça pour dire qu'au final, j'ai trouvé un peu cette guéguerre un peu puérile. Surtout, voilà, par exemple, quand tu cibles un mec comme Bernardo, tu sais que Bernardo, quand il vient, c'est pas pour jouer au milieu de terrain. S'il vient, c'est surtout pour prendre la place d'un joueur tel que Neymar. Quand tu as ciblé des mecs comme Lewandowski, etc. Et là encore, une nouvelle contradiction. Il te dit, oui, mais si on veut le prolonger, non, Neymar, on n'a jamais voulu le faire partir. Et on voulait mettre en plus, il dit bien le mot star. Il dit, voulait une quatrième star. Et on n'est pas obligé de faire jouer les quatre stars. Donc, soit il voulait vraiment faire un régime de la main de fer, et dans ce cas-là, personne n'aurait eu son mot à dire. Mais ça, au PSG, en tout cas à l'heure actuelle, avoir une transition aussi drastique, et je n'y crois pas. Soit, il s'est contredit, et dans ce cas-là, Campos.
J'irais même plus loin. Entre Galtier, qui après Brest dit j'ai décidé de laisser les trois devant pour faire la différence plus tôt. Et ensuite, faire les changements avec Campos qui dit qu'il voulait une quatrième star pour pouvoir peut-être mettre un des trois sur le banc. J'ai appelé les deux, quand tu es Sarabia, Ekitike ou Solaire qui écoutent ça, quand tu as le discours de Galtier après Brest et le discours de Campos aujourd'hui, tu as un peu l'impression que tu es vraiment la dernière roue du carrosse et que tu ne sers à rien.
Je pense que ça a été plus ou moins clair pour eux. Par exemple, un Ekitike, lui, je pense que ça a vraiment été clair pour lui.
Solaire, Sarabia, c'est différent, ils sont internationaux.
Tu peux pas dire, si on prend Solaire qui est titulaire à Valence, qui a une place en équipe d'Espagne, je ne pense pas que ça lui ait été vendu comme ça, parce que sinon, le mec, jamais il vient, en fait.
Tu vois, okay, les gars. Bien
sûr, on lui a pas dit qu'il serait titulaire, mais dire que tu n'as pas le niveau limite pour jouer Brest parce qu'il faut plier le match avant, c'est un peu différent.
Après, il y a Marseille qui talonne un peu. Peut-être que tu dis avec la peur de machin. Après, c'est juste pour pinailler et essayer de trouver des explications. Mais c'est vrai que tu n'as vraiment pas besoin forcément d'être droit devant en même temps sur le terrain pour aller gagner à Brest. Ça, c'est une évidence.
Et quand tu le vois sur le terrain qu'à Brest, ils sont complètement cuits, tu peux faire tes changements à la 45e plutôt qu'attendre la fin du match, même si tu ne mènes que 1-0, parce que concrètement, tu te dis, j'aurais fait plus de changements si on menait 3-0. Quoi. Mais c'est super le message, comme le rappelait Basto, c'est super le message si tu es un remplaçant. Quoi.
Bah les gars, du coup, là, vous avez fait une parfaite transition parce que je voulais parler de ce qu'il a dit sur Galtier, sa relation qu'il a avec Galtier. Alors là, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un peu politique. Franchement, je trouve qu'il est dans la vue. Quand il dit, par exemple, quand Nasser m'a proposé le poste, la première chose que j'ai fait, c'est d'appeler Christophe Galtier, et ce même avant d'appeler ma femme et ma famille. Et déjà dans la vue. Après, il continue. Ce matin, je suis arrivé à 8h au centre d'entraînement. Christophe était déjà là. Et quand je suis parti pour venir ici, chez RMC, il était encore au camp des loges avec son staff. Donc, à 19h. Donc, je ne sais pas si c'est moi, mais soit il essaie de se conforter dans son choix et de conforter. Tu n'as pas les droits de faire ça, Drey.
On a tous vu. Hein.
C'est mal, toi qui es sérieux, réponds à la question. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est à la fois habile, mais la ficelle est un peu trop grosse. Quoi. C'est la happy.
Tu m'as attaqué la balle, là.
C'est la happy Playmobil Family. Quoi. Tu sais, ils arrivent tous à l'heure, ils sont tous propres, ils sont tous machins. Attention, ils se sont bien lavé les dents avant de venir. Tu vois, tu aurais pu rajouter ça. J'exagère un peu, mais qu'on aurait été un peu dans la même ligne. C'est habile, mais c'est trop propre. Ça va un peu trop loin.
Voilà. Je vais prendre un peu la tangente. Ce discours, je l'ai plutôt bien aimé, dans la mesure où il sait que son coach n'arrive pas en position de force au club. Oui. Il sait qu'il a été très moqué, très raillé, très critiqué avant sa venue. Et il sait que il a eu des très bons résultats. Si on fait le parcours global de quoi on prend les premiers matchs, c'est-à-dire de août jusque septembre, mis à part la période un peu moins bien Brest-Maccabi, je pense qu'on est tous agréablement surpris de Galtier et qu'on a tous pris globalement beaucoup de plaisir sur, sur le début de saison. Ah bah, si tu as préféré Pochettino l'année dernière, chacun sa notion du plaisir.
Je vais t'expliquer, j'étais en congé jusqu'à Lille, donc j'ai vu que les matchs d'après et ça fait 6 matchs que je me fais chier. Nantes, Toulouse, Monaco, Haïfa, Brest et Juve.
Et après Simbad, juste tu vois par exemple si on prend le match contre Lille et effectivement tu sais on est en pleine bourre, c'est nouvelle saison, il y a quelques petits problèmes dans la manière avec laquelle l'effectif s'agence, mais tu as une tolérance en fait pour ces petits soucis. Mais le problème c'est que la surchauffe en fait des offensifs, elle ne s'est pas confirmée, mais les petits soucis sont confirmés. Si on regarde Lille, parce que je me souviens particulièrement de ce match, tu as un but à la 8e seconde, tu as un deuxième but à la 25e. Et entre la 8e seconde et la 20e minute, mais limite, tu vois pas le jour. Tu te fais bouffer au milieu, tu fais etc., etc. Alors après, tu arrives à marquer ce deuxième but qui décourage, qui etc. Parce que tu es... Donc, le prisme avec lequel on regardait le début de la saison, parce que tout est nouveau et donc inévitablement, tu as tout un tas de tolérance, est un peu mis à mal. Alors, ça ne veut pas dire que c'est définitif hein, ce qui se passe aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas recommencer à bien jouer, que ça n'arrivera jamais, etc. Mais c'est quand même un peu mis à mal avec la manière avec laquelle ça a évolué, où en fait, les points négatifs se confirment, voire maintenant, en plus, il y a l'argument de la fraîcheur qui vient se rajouter, et les points qui étaient aussi enthousiasmants sont un petit peu redescendus en température, quoi.
Moi, je pense quand même que moi, personnellement, je ferai le premier constat après le match face à Lyon, parce qu'après, on a la trêve internationale. Je pense qu'après le match face à Lyon, on pourra dresser un premier bilan des deux premiers mois de Galtier. Et à l'instant, je trouve quand même qu'on est sur une note assez positive. Alors certes, il y a beaucoup de choses qu'on doit relever, comme la gestion de Galtier qui s'est un peu essoufflée sur le... Tu sais, au fur et à mesure, tu sens qu'il a un peu de mal à faire tourner, un peu de mal à faire ceci. Tu sens que les joueurs ont une gestion du football un peu plus compliquée au fur et à mesure des matchs. Ça, il faudra le noter. Mais globalement, moi, je suis assez satisfait des deux premiers mois de Galtier. Et quand Campos vient te dire face caméra chez Roten, où tu sais que Galtier a été énormément critiqué avant sa venue, on ne va pas rappeler les Danny Boone, la révolution de Cessa, etc., etc. Et bien, avoir ce discours fort, on peut trouver ça un peu gnangnan, et je le comprends totalement, parce que bon, comme tu as dit, s'il limite, s'il lui dit « Ah, il a bien fait ses lacets », etc. Mais au final, c'est un discours que je trouve fort de la part d'un DS qui est derrière son coach, et on n'a pas vu ça depuis très longtemps au Paris Saint-Germain, une espèce de synergie entre, bon, je ne vais pas dire toutes les parties, parce qu'Antero, lui, c'est un peu le vilain petit canard, mais tu sens qu'il y a cette espèce de synergie entre le DS et le coach qu'il a choisi, et sur l'image que ça renvoie au-delà du terrain, je trouve que ça reste quand même assez positif.
J'entends ce que tu dis, Simbad, et tu as raison de le mettre en avant. Tu as raison de le mettre en avant parce que ça renvoie à quelque chose. Maintenant, le truc, si tu veux, c'est que c'est allé quand même vraiment loin si tu prends l'ensemble de l'interview et l'ensemble des remarques.
Oui, ça, c'est sûr.
Si tu veux, il en aurait fait un chouïa moins, bah ouais. Ouais. Oui, il a raison, il est juste en train de défendre son coach, etc. Mais là, il y a un petit peu une sensation de mise en scène, en fait, du truc. Tellement les propos vont loin et tu as l'impression qu'ils sont tous parfaits en train de vivre ensemble dans le meilleur des mondes. Ça va. Il y a quelque chose de candide presque qui gâche un petit peu le tableau, mais dans l'ensemble, je te rejoins pour partie.
Si je peux.
Non.
Vas-y, Basto.
moi là-dessus, les déclats ne m'ont pas choqué. Ça va dans le sens de ce qu'on a même de quand Galtier. Ils l'ont toujours dit, Galtier Campos a tout de suite dit quand il est à Lille, j'adore Galtier, parce que si j'appelle à 3h du mat, même s'il dort à côté de sa femme, il va me répondre. Et je pense que c'est vrai en plus. Donc voilà, Campos, c'est ce qu'il aime, hein, avoir quelqu'un qui est à sa solde et qui peut tout de suite répondre, et quelle que soit l'heure, quelle que soit la journée, même en vacances, etc., même en congé. Après, juste pour répondre, il y a un commentaire tout à l'heure que j'avais vu en bas qui disait « Campos n'a-t-il que Galtier dans son carnet de notes ?» Je voulais juste répondre non, mais il n'a que les coachs régressifs dans son carnet de notes, Jardim, Allegri, Galtier, voilà, c'est ça cam. Et pour finir, juste, Sinbad, par
Nix,
rapport
au… micro, Nix.
Oui, le micro, Nick. Juste finir, Simbad, par rapport à le bilan après Lyon, tu as raison, hein, je m'emballe sur les 4-5 derniers matchs. Juste ce qui m'inquiète, c'est la cinétique, tu vois, c'est que tu commences bien et c'est de pire en pire.
Tu as raison.
Il y a d'autres choses qui vous ont choqué dans l'interview ou quand vous vouliez parler.
J'ai une question à vous poser. À la fin, il finit par dire « j'ai un contrat sur 3 ans, pour 3 ans ». Moi, je suis là tant qu'on veut, mais il faut qu'on soit tous d'accord, etc. Donc, il remet quand même un petit coup de pression sur « il faut qu'on soit tous d'accord ». Est-ce que vous pensez que la rumeur Campos Chelsea a été gonflé en partie par lui-même et qu'il l'a utilisé pour pouvoir faire cette deuxième lame aujourd'hui en interview.
Bah, moi, c'est ce que je disais au début, c'est que ça met en une autre lumière sur cette rumeur. C'est t'en arrives même à te demander si fondamentalement c'est pas lui qui l'a lancé, parce que grosso merdo, aller servir un speech à sur RMC. Alors après, on n'était pas au courant de l'interview, donc il a peut-être fait l'interview en réaction à la rumeur. Tu vois, ça on sait pas. Mais aller servir un speech à RMC pour dire grosso merdo, je suis très engagé, je suis heureux de tout, sauf de Henrique, mais je suis heureux de tout fondamentalement. Alors que trois jours avant, il y avait « Ah, mais en fait, peut-être que quelqu'un veut l'acheter, sous-entendu, peut-être qu'il veut partir. » Tu joues sur les deux tableaux, tu déstabilises tout le monde et tu prends un petit peu de pouvoir. Quoi. On parle beaucoup de toi, on te met haut. Là, Henrique, il arrête un peu d'exister. Donc, politiquement, ce serait toi, ce serait pas si mal joué qu'il ait lui-même monté. Et je dis pas du tout qu'il l'a fait. Hein. Je dis juste que politiquement, ce serait pas si mal joué.
Bah, je suis aussi un peu dans cette lignée. Et ce qui est cool, non, ça c'est pas cool, mais c'est que ça arrive post-mercato, c'est que ça n'arrive pas en plein mercato où tu aurais pu avoir beaucoup de vacarme. Là, ça arrive post-mercato où, et c'est même pas une semaine après, c'est quasiment trois semaines après ce volet mercantile. Donc tu te dis, il remet un peu la mosquée au milieu du village. Il y a eu des choses qui ne lui ont pas plu, il y a des choses qui n'ont pas plu au bord parisien, et il profite de cette fenêtre pour pouvoir exprimer son mécontentement, chose qu'il n'avait pas fait depuis le début de saison où il était très calme. Il avait parlé de ses ambitions aux Parisiens début août. Maintenant, il parle du bilan justement post-mercato. Il se trouve qu'il utilise un peu cette fenêtre pour pouvoir, d'une part, taper du poing sur la table, d'autre part, faire le bilan et, d'une troisième part, montrer que c'est lui le boss. C'est lui le boss. Et quand il parle de Nasser et qu'il a, il me semble, il avait cité une seule fois Nasser, c'est quand il parlait de Milan Skriniar en mode oui, et le président a bien fait. Non, c'était Galtier qui disait le président a bien fait de ne pas tomber aux demandes de Luther. C'était Galtier qui avait dit ça en conférence de presse avant Maccabi, je crois, ou avant la Juve.
C'est ça, avant Maccabi.
Et au final, tu te dis que c'est lui le boss. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, le sportif. Quand il veut taper sur Antero, il tape sur Antero. S'il veut taper sur un joueur, il peut taper sur un joueur. Et il réaffirme un peu sa position, mais beaucoup plus subtilement que le faisait un Leonardo. On sait que Leonardo est un personnage beaucoup plus fantasque, beaucoup plus dans le spectacle. Tu sens un Campos beaucoup plus calme, beaucoup plus, tu sais, un peu Ancelotti-esque, tu vois. Un peu vieux père, tranquille, qui n'hésite pas à mettre un peu des tatanes. Genre, il te met une gifle, mais tu la reçois genre deux heures après quand tu as compris le message. Et ça, pour le coup, j'ai bien aimé. Après, le discours, on n'aime pas, la forme, on n'aime pas. Mais ce qui est évident, c'est que Luis Campos, bien que son mercato, de son côté, a été plus ou moins raté, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon directeur sportif.
Après, attention, c'est un faux calme. Hein. Campos, il est décrit comme très austère, très sévère.
Ouais, on se rappelle de la vidéo Lille PSG, pour ceux qui n'ont pas vu.
Je préfère que face caméra, il soit posé et calme et qu'il dégage une belle image.
Là-dessus, on est d'accord. Au niveau de la forme, et je reviens dessus, hein, moi, j'ai vraiment trouvé la forme bon. Je l'ai trouvé juste un petit peu trop gnangnan. Bah, comme tu le disais tout à l'heure, c'était une expression un peu meilleure que les Playmobil heureux. Mais fondamentalement, il était bon. Il est allé dans le sens des supporters. Il fait passer ses messages et là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, sur bon directeur sportif…
Dans la communication, surtout.
Ouais, parce que pour le reste, si tu veux, il y a quand même un attelage et sur lequel il a réappuyé un attelage très très fort entre lui et Christophe Galtier. C'est-à-dire que s'il y a les résultats sportifs qui sont pas à la hauteur, c'est limite presque plus Christophe Galtier qui est responsable, c'est limite Campos.
Ah, c'est avec. Hein.
Oui, voilà, tu vois,
le c'est. Les deux, ils sauteront en même temps, je pense.
Il y a ça. Et tu vois, il y a un espèce de truc où à la fois ça l'homme fort, mais en même temps, il donne, tu vois, c'est. Quelles sont les limites de leur relation, etc.
Quand tu dis leur relation, c'est qui leur relation?
Galtier Campos, je pense.
Ouais.
Elle est forte.
Et si tu veux, tu vois, avant de dire c'est un bon DS, bah déjà, toi, tu le rappelais, au niveau mercato, on n'est pas forcément à la hauteur. Au niveau sportif, pour l'instant, on traverse une période un peu délicate, et notamment à cause des fois du coach de ne pas faire tourner. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est une des rationalisations. Et avant de dire bon travail de DS, après j'ai compris que tu précisais communication, mais justement sur le reste, moi, il va falloir que j'envoie un petit peu plus. Parce que
on a des réserves, c'est évident.
Si, par exemple, typiquement, hein, contre Benfica, on n'est pas bon, on continue à pas être bon, etc., ça va commencer à grincer des dents. Alors, ce sera pas définitif parce qu'on est que dans les phases de poule. Et si on a les points nécessaires pour passer, ce sera en mode jusqu'ici tout va bien. Mais les dents commenceront à grincer. Et si jamais tu passes pas, ça va devenir très compliqué.
De toute façon, Campos, on le jugera sur le mercato de l'année.
Et donc,
Non, c'était pas sur lui, c'est parce qu'on restait sur le sujet et je suis ni tonton ni Barry, ni sujet qui dire 10 minutes, c'est pas avec moi, les gars, je suis désolé. Ce que je vais dire, c'est parce que là, on est déjà sur 30 minutes. Alors, vous êtes 105 à nous regarder, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément. J'ai des questions sur Twitter qui nous disent comment soutenir la chaîne. Alors, en dessous des vidéos, vous avez notre boutique où on vend des t-shirts. On a aussi, vous pouvez cliquer sur rejoindre la chaîne pour être abonné, pour rejoindre notre, comment ça s'appelle, notre groupe Discord. C'est à 2,99€ par mois. Si ça vous fait plaisir, allez-y. Sinon, contentez-vous de liker, ça suffit amplement. Alors, on va terminer avec une question d'un abonné, de quelqu'un qui nous regarde. Il nous dit, et on va conclure là-dessus parce qu'on est déjà sur 35 minutes. Pour vous, d'ailleurs, Antero joue quel véritable rôle au club, car il n'a pas de contrat. Faites-vous plaisir, ce sera le dernier sujet.
Bah, son cahier des charges, c'était les ventes. Et ensuite de ça, il joue à la guéguerre avec Luis Campos, parce qu'il ne faut pas être naïf. Hein. Antero Henrico, il n'est pas tombé de la dernière pluie et des planches savonnées. Il a dû en distribuer aussi quelques-unes à Campos. Et il y a un petit jeu entre les deux. Mais c'est un jeu qui peut être... des mecs qui se tirent dans les pattes, si à l'arrivée, ils mettent le club au-dessus d'eux-mêmes, ça peut être très, très bon pour le club. Si jamais ils oublient de mettre le club au-dessus d'eux-mêmes, ça peut mettre une vraie cacophonie dans le club et on risque de souffrir dans l'encadrement.
Simbad ?
Oh, bah vas-y, je prends la parole. C'est un peu le deuxième bras armé de Luis Campos, là où avant, c'était lui la tête pensante. Là, il est beaucoup plus un bras au service de Campos. Bon, un bras qui a sa propre conscience, visiblement, parce qu'on a vu que le bras mettait des gifles à la tête par moment. Mais du coup, moi, c'est en fait, c'est assez frustrant parce qu'on sait que les deux sont assez compétents dans leur domaine de travail. On sait qu'Antero est capable de faire des miracles et on sait que Campos est capable de faire des miracles également. Malheureusement, on n'a pas encore vu les deux miracles à l'œuvre. Alors, on a vu que Campos, par exemple, sur un recrutement type Vitinha, c'était un très beau coup de sa part. On a vu que certaines pistes étaient très intéressantes. Par exemple, un Bernardo, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Je parle par rapport au profil, pas par rapport à l'aspect tactique. Et malheureusement, ça a un peu péché. Après, je trouve qu'Antero, il fait un bon retour. D'un point de vue de ce qu'on lui a demandé, il a fait un bon retour par rapport au dossier qu'il a eu à traiter, par rapport à ce qu'il a fait. On reste quand même sur 23 départs, ce qui fait à peu près 50% des joueurs sous contrat ont quitté le club de manière permanente ou de manière temporaire. Et par rapport à ça, je pense que même s'il n'a pas de contrat, il doit avoir une certaine pression parce que si lui réussit ses deals, eh ben, tant mieux pour lui. Et s'il les rate, eh ben, il doit avoir une petite épée de Damoclès au-dessus de lui. Surtout quand tu vois un Luis Campos qui te tire aussi fort dessus sur la première Radio France.
Alors, pour...
Basto, il y a juste Samir qui nous dit on veut Barry. Alors toi tu veux Barry, moi je veux 2 millions d'euros, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Donc tu reviendras quand il y aura Barry. Vas-y Basto, tu conclues.
Ouais, je dis que Enrique, même s'il n'a pas forcément de contrat lié avec le PSG, on sait qu'il est lié au Qatar parce qu'il gère la Ligue du Qatar. Il a un contrat avec QSI pour gérer la Ligue du Qatar. Donc il est quand même lié aux dirigeants du PSG. Et donc là, il est sûrement mandaté. Alors, on nous avait parlé que c'était juste pour l'été. On ne sait pas trop si ça allait survivre à ce mercato estival. Et c'est justement aussi pour ça que je pense que Campos s'en remet une couche et que lui dit « je n'ai pas envie que ça survive ». Après, j'ai vu un commentaire qui disait « est-ce que Enrique n'est pas un espèce de contre-pouvoir ou justement l'homme de confiance de Doha ?» Si, c'est un homme de confiance du Qatar, comme je viens de le dire. Et c'est un espèce de contre-pouvoir contre Campos. Et c'est important d'avoir un contre-pouvoir jusqu'à ce que ce ne soit plus possible ou qu'il y ait trop de bisbilles. Mais un contre-pouvoir, c'est sain.
Il faut juste que les deux mettent le club au-dessus de leur ego. Le jour où ils arrêtent de mettre le club au-dessus de leur ego, ça ne fait que des dégâts. Et tant qu'ils mettent le club au-dessus de leur ego, au contraire, c'est une très bonne chose. Ça amène les mecs à se battre, à essayer de montrer qu'ils sont plus utiles que l'autre au club, etc., etc., etc. Et on en retirera tous les bénéfices, quoi.
Je veux juste répondre aux trois commentaires qui disent « Oui, mais c'est que des prêts, c'est que des prêts, c'est que des prêts. » Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'état dans lequel était le chantier des départs au début. On parle d'un club qui avait sous contrat des joueurs avec une masse salariale absolument titanesque. Des joueurs qui, même s'ils n'ont pas une grosse valeur marchande, ont des salaires absolument énormes. Des joueurs comme même ne serait-ce que Kurzawa, qui a un salaire assez conséquent et que peu de clubs peuvent se permettre de payer en plus d'un transfert. Tu as des joueurs comme Herrera que tu ne peux pas te permettre de payer cher en plus de payer son salaire. En fait, et c'est ça qu'on doit prendre en perspective. Et le fait de faire un prêt avec option d'achat, tu sais, des trucs un peu alambiqués, un peu rocambolesques, ça permet au club, je vais dire, qui fait la transaction, qui vient pour récupérer le joueur, de se laisser du temps pour pouvoir payer. Et d'autre part, à toi, de te libérer de ta masse salariale, ne serait-ce que même en partie. Et au final, quand tu cumules les 23 départs, même en prêt, ta masse salariale, elle baisse. Alors, peut-être pas drastiquement, mais elle baisse. Et ça fait surtout de la place en plus. De la place en plus pour des arrivées.
Et les arrivées, la masse salariale est beaucoup plus basse. On met des salaires qui sont beaucoup plus honnêtes.
Exactement. Tu n'as aucun salaire à plus de 5 millions nets, il me semble.
Et je vais réagir aux commentaires que j'ai eu passer. Seulement 50 millions en vente dans la moitié pour Kalimuendo. Mais ouais, mais regarde tes joueurs, quoi. Et comme l'a rappelé Simbad avec beaucoup d'à-propos, tu avais des joueurs qui ne jouaient pas et qui étaient payés des 4 millions, 6 millions.
Zara n'a pas joué une minute de championnat quand même.
Etc. etc. Donc, va les vendre ces joueurs. C'est impossible. Déjà, réussir à les faire partir alors que le mec, il peut se dire « j'attends une année de plus, de toute façon, je n'ai pas joué, j'aurai peut-être un peu de temps de jeu, on verra. Et comme ça, je me toucherai une prime à la signature. » Mais non, il faut réussir à les faire partir, ce n'est pas simple. Et tu n'avais pas de valeur marchande dans ton effectif, à moins de te séparer d'un joueur qui était important pour ton effectif. Et à ce moment-là, ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu te sépares d'un joueur qui est important pour ton effectif, tu as plutôt intérêt à avoir le backup. Et pour l'instant, on n'était pas organisé pour. Et sur quasiment tous les secteurs, à part le secteur offensif, on était plutôt en manque, en sous-nombre d'effectifs. Parce que ça, c'est un truc que Campos nomme, et il le nomme très justement. On avait 54 joueurs sur contrat et on n'avait pas deux équipes pour jouer. C'est-à-dire que tu avais 54 joueurs et tu n'avais que 4. 14 joueurs qui avaient le niveau 15 joueurs.
Et encore, quand tu regardes la gueule du 11, il y avait de
Donc, si tu veux, c'est voilà, la situation, elle en était là. Et c'est cette remarque, et moi, je terminerai là-dessus. On avait 54 joueurs et on n'avait pas deux équipes pour jouer. Ça dit tout.
Micro, copain.
Nix.
Bien vu. Je vais arrêter de traiter les autres MC parce que à chaque fois je leur dis comment vous faites pour dépasser 30 minutes. J'ai fait bien pire qu'eux avec vous parce que vous étiez ultra bavard. Donc bonne soirée à tous et on se retrouve probablement dimanche soir pour le débrief OL PSG parce que c'est au Parc OL. J'espère qu'on va gagner. J'espère qu'on va gagner parce que ce match je le sens pas trop comme chaque match contre l'OL depuis des années. Et j'espère qu'en tout cas, Anthony Lopez, il va pas attaquer Kylian Mbappé. Voilà. Salut Paris.
Ciao tout le monde.